Ma communication porte sur le récit concernant le jeune Samuel servant en sanctuaire de Silo. Le récit raconte comment Yahvé essaye à plusieurs reprises de se révéler à Samuel dans le temple pendant la nuit. Instruit par son maître Élie, le garçon finalement peut répondre à Yahvé et il devient ensuite récepteur d'un message divin. Yahvé annonce un événement effrayant qui va, citation, « faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler ». Au matin, Samuel va rapporter la parole à Élie, son maître. À la fin du récit, le lecteur apprend que Yahvé continue à se révéler à Samuel. Majoritairement, les analyses du récit de 1 Samuel 3 dans la recherche aboutissent aux deux conclusions suivantes. 1 Samuel 3 est composé selon un certain genre. Il y a plusieurs suggestions d'attribution. Il s'agirait soit d'un récit de vocation, soit d'un récit de rêve d'incubation, ou soit d'un récit de théophanie honorique. Deuxième conclusion, le récit de 1 Samuel 3 a des liens forts avec les récits de 1 Samuel 1 à 2. À un moment donné, les deux récits sont réunis et rédigés en une narration portant sur la naissance de Samuel et sa jeunesse en sanctuaire de Silo. Par contre, cette narration de 1 Samuel 1 à 3 serait indépendante des récits suivants, c'est-à-dire 1 Samuel 4 à 6, qui forment une entité autonome en commun avec 2 Samuel 6, le soi-disant récit de l'Arche. La communication va présenter et discuter ces propositions en commun avec des idées d'autres chercheurs ainsi que des suggestions personnelles. J'aborderai donc la question du genre du récit et celle de la relation avec les récits qui l'encadrent. Pour cette deuxième question, il sera important d'examiner de très près l'oracle de Yahvé se trouvant au cœur du récit, les versets 11 à 14. Quel événement le message de Yahvé visait-il? À la fin de l'intervention, les questions concernant le milieu et l'âge du récit seront thématisées. Pour le traitement de la question des relations avec les récits précédents et suivants, il est utile de résumer brièvement les contenus de ce récit encadrant 1 Samuel 3. Le récit d'ouverture, 1 Samuel 1 à 2, rapporte d'abord comment Samuel a été dédié au sanctuaire de Silo par sa mère Anne. Encore petit garçon, il grandit dans le sanctuaire de Silo. À côté de Samuel, les fils d'Élie accomplissent également des fonctions au sanctuaire de Silo. Quant à eux, ils s'occupent du culte sacrificiel. Mais ils n'exercent pas leur devoir avec un sentiment de respect envers la divinité et envers les gens offrant le sacrifice. Ils revendiquent comme taxe destinée aux prêtres de la viande crue et la graisse, exigence qui contredit les stipulations particulières du sanctuaire de Silo. Élie fait des reproches à ses fils, mais ceux-ci n'écoutent pas la voix de leur père. Après, suit un passage comprenant un oracle. Un homme de Dieu anonyme s'adresse à Élie. Selon sa prophétie, Élie et toute sa maison seront punis à cause des abus des fils d'Élie. La dynastie des Élites perdra sa position sacerdotale privilégiée en Israël. Cet oracle est souvent considéré comme un ajout deutéronomiste ou post-deutéronomiste. Voilà donc le résumé des chapitres 1 et 2. Quant au chapitre 4, il porte sur deux batailles d'Israël contre les Philistins. Lors la deuxième bataille, l'arche de Dieu sera prise par l'ennemi, et les deux fils d'Élie trouveront la mort. Élie, en apprenant ces nouvelles, tombe de sa chaise et meurt également. J'aborde donc d'abord la question du genre. Trois propositions ont été faites. Il s'agirait d'un récit de vocation, suggestion de MacArthur, Burgess, Newman, par exemple. Dans la Bible hébraïque, il y a plusieurs récits de vocation concernant des dirigeants du peuple, Moïse, Gédéon et des prophètes, Élie, Jérémie, Ésaïe. Les récits appartenant à ce genre contiennent certains éléments fixes. Les chercheurs attribuant 1 Samuel 3 à ce genre s'appuient surtout sur le premier et le deuxième élément, alors la confrontation avec la divinité et l'appel de Dieu. Cependant, les autres éléments du récit de vocation manquent en 1 Samuel 3, notamment l'élément central concernant l'ordre de mission. Le message divin ne contient pas une vocation de Samuel. Selon d'autres chercheurs, le récit correspondrait à un récit d'oracle d'incubation ou à un récit apparenté au récit de théophanie onirique. Ce qui contredit une attribution du récit de 1 Samuel 3 à ces genres est surtout le fait qu'à aucun endroit il est dit que Samuel reçoit le message divin en état de songe. Les verbes typiques d'un récit de théophanie onirique, dormir, rêver, chalam, rêve, chalom, réveiller, yakatz, manque. Il est plus évident d'imaginer Samuel en état de veille lors de la rencontre avec Yahvé. Par rapport à ces suggestions, on peut conclure que le récit ne correspond à aucun de ces genres proposés. 1 Samuel 3 est plutôt un récit ayant sa propre structure et des motifs distincts qu'il a partiellement en commun avec les récits précédents et suivants, comme on va voir par la suite. Une question cruciale pour l'interprétation du récit est celle de la référence du message de Yahvé et la référence de l'oracle. Quel est le lien de cet oracle qui se trouve en 3, 11, 14? L'oracle commence avec l'assertion brève et générale, verset 11. Alors Yahvé dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui va faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler. » Ce qui suit, les versets 12 à 14, forment une reprise de l'oracle de l'homme de Dieu en 2, 27 à 36, alors l'oracle qui précède. La maison d'Élie sera révoquée à cause des fautes commises par les fils d'Élie. Il est frappant que ce passage reprend plusieurs expressions de l'oracle de 2, 27 à 36. Il s'agit des termes suivants. Koum, en Nifil, accomplir. Beth-Élie, et Beto, alors maison d'Élie et sa maison. Ve Lachen, c'est pourquoi. Ve Sevach ou Ve Mincha, par des sacrifices et par des offrandes. Ad Olam, pour toujours. Ces observations ont mené plusieurs chercheurs à considérer les versets concernés comme une insertion d'harmonisation avec l'oracle précédent. L'argument me semble pertinent. On pourrait y ajouter l'observation suivante. Le verset 1 de ce récit, rapportant qu'il n'y avait pas de vision dans ces jours-là, contredit l'assertion des versets 12 à 14 que Yahvé se serait révélé déjà auparavant au sujet de la maison d'Élie. Selon les chercheurs mentionnés, le passage inséré aurait remplacé un autre oracle qui serait maintenant perdu. André Kako et Philippe de Robert et aussi Stoltz considèrent seulement les versets 12 à 14 comme secondaires. Quant au verset 11, il aurait fait partie du récit originel de 1 Samuel 3 en tant que l'introduction de l'oracle perdu. Il argue que le verset 11 n'appartiendrait pas à la même couche littéraire que les versets 12 à 14. Comme la tournure indique un événement effrayant pour tout Israël, la prédiction originellement ne visait guère la révocation des élites. Car l'idée d'une révocation des élites n'était pas effrayante pour tout le monde en Israël, surtout pas pour ceux qui étaient escroqués par les fils d'Élie. L'événement d'Avar qui fera tinter les oreilles à tous les Israélites qui en entendent parler doit être une autre chose. Philippe de Robert et André Kako supposaient que l'oracle originel qui était introduit par le verset 11 aurait renvoyé à la défaite d'Israël contre les Philistins et la perte de l'arche de Dieu. Événement rapporté dans le chapitre 4. En effet, la perte de l'arche était sans doute un événement fort émouvant pour les Israélites. Cette idée de Kako et de Robert me semble pertinente. Mais, à mon avis, il se peut que l'oracle originel ait consisté seulement dans le verset 11. Voici, je vais faire en Israël une chose qui va faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler. L'idée qu'une partie de l'oracle originel aurait été omise par l'interpolateur des versets 12 à 14 n'est pas nécessaire. Il se peut que l'oracle de Yahvé originellement ait été seulement une brève prédiction pointue, mais voilée. Je vois deux indices en faveur de cette hypothèse. Premièrement, dans le récit de 1 Samuel 3, après la révélation de la parole divine par Samuel, Élie dit, verset 18, Élie dit, « Il est Yahvé qu'il fasse ce qui lui semble bon. » Cette réaction d'Élie fait du bon sens vis-à-vis une prédiction de Yahvé qui reste générale et non concrète. En effet, la phrase « qu'il fasse ce qui lui semble bon » semble refléter le caractère ouvert de la prédiction divine. Deuxième argument, dans le récit de 1 Samuel 4, on lit qu'Élie, lors de la bataille d'Israël contre les Philistins, attend au cœur tremblant le retour de l'arche. À l'arrivée du messager venant du champ de bataille, il se renseigne auprès de ce dernier avec les mots suivants. Quel était l'événement, mon fils, Mehaya Hadavar Beni? À comparer la formulation de 3.11 où il avait dit voici, je vais faire en Israël une chose, Davar, qui va faire tinter, etc. Ce mot Davar, chose, événement, pourrait faire allusion à l'oracle de Yahvé dans le chapitre 3 et est indiqué au lecteur que l'événement qui a été pronostiqué par Yahvé est celui qui est maintenant rapporté en chapitre 4. En répondant, le messager rapporte ensuite à Élie les événements du champ de bataille. Israël a subi une grande défaite. Les deux fils d'Élie sont morts. L'arche de Dieu est prise. En entendant cela, Élie, qui est très âgé, tombe de sa chaise et meurt. Parmi tous ces incidents tragiques rapportés dans le chapitre 4, la prise de l'arche est certainement particulièrement grave. Ça se révèle dans la constatation de la belle-fille d'Élie à la fin du récit que la kavot, la gloire, c'est-à-dire Yahvé, aurait quitté le pays. L'interprétation du récit de 1 Samuel 3 suggérée ici est donc la suivante. L'oracle de Yahvé de 1 Samuel 3 originellement était une brève prédiction qui laisse dans l'incertitude Samuel et Élie, les deux initiés de la révélation, et avec eux aussi les lecteurs. L'énigme ne sera résolue que dans le chapitre 4. L'oracle vise la défaite des Israélites contre les Philistins et la prise de l'arche. Pour revenir à la question de M. Durand de ce matin, ici, à mon sens, on aurait un exemple d'une prophétie qui est d'une certaine manière une chose cachée, un énigme. Mais la racine root n'est pas utilisée, qui est d'ailleurs très, très rare. L'interprétation présuppose la parenté des deux récits 1 Samuel 3 et 4. Est-ce qu'il y a d'autres indices favorisant l'idée que les récits de 1 Samuel 3 et 1 Samuel 4 originellement étaient étroitement liés l'un à l'autre? En effet, il y en a quelques-uns. Au début du récit, l'arche de Dieu est mentionnée. L'arche est le motif clé dans le récit de 1 Samuel 4. La mention du coffre tout au début du récit pourrait donc avoir la fonction de faire allusion au récit suivant. Une remarque en parenthèse, il n'est pas sûr que le rouleau 4 que Samuel a, qui est très fragmentaire à cet endroit, fait mention de l'arche. Il y a deux motifs concernant Élie le prêtre qui apparaissent dans les deux récits. Le motif de la cécité d'Élie dû à son âge est présent dans les deux récits. En 1 Samuel 4, la cécité est aggravée. Dans les deux récits, Élie s'adresse à un jeune homme qui n'est pas de sa famille en l'appelant « mon fils, Béni ». Les chercheurs qui contestent la parenté littéraire des deux récits s'appuient sur le fait que Samuel, personnage principal de le chapitre 3, ne joue aucun rôle dans le chapitre 4. En effet, au regard du verset 20 qui parle de Samuel en tant que prophète, connu dans tout le pays d'Israël, le silence par rapport à Samuel en 1 Samuel 4 doit surprendre. Mais il y a de forts indices favorisant une attribution de ce verset à une couche secondaire. À mentionner d'abord le vocabulaire, Néhéman, les Navi, les Yahvé, et puis les indications de lieu, Dan et Beersheba, qui ne correspondent pas aux réalités géographiques reflétées dans les livres de Samuel. Il est intéressant de voir qu'ailleurs dans les livres de Samuel, le personnage de Samuel n'est jamais désigné en tant que Navi, prophète, mais comme Roé, voyant, plusieurs fois dans le chapitre 9. Il faut aussi mentionner le verset 4:1 à demi-verset, indiquant que Samuel adressait sa parole à tout le peuple d'Israël. D'abord, il faut tenir en compte que ce verset n'est attesté que dans le texte masorétique. L'image de Samuel en tant que personnage célèbre en tout Israël fait tension avec l'assertion du récit que Samuel était encore un garçon, verset 7, un jeune servant dans le sanctuaire, verset 1. Il est donc vraisemblable que ce verset est un ajout très tardif. Le récit 1 Samuel 3 a également des affinités avec le récit 1 Samuel 1:1-2. Il s'agit d'abord de la désignation du sanctuaire. Les expressions Hechal et Baït sont utilisées dans les deux récits. Puis de la désignation de Samuel en tant que Nahar, jeune garçon. Enfin, du motif du connaître Yahvé. En 2:12, il est dit que les fils d'Élie ne connaissaient pas Yahvé. En 3:7, on lit que Samuel ne connaissait pas encore Yahvé. Au point de vue du contenu, on discerne la même tendance. Tous les récits sont situés à Silo. Élie et le sanctuaire de Silo sont vus plutôt positifs dans les récits de base, sont considérés les ajouts secondaires. J'aborde donc la dernière partie qui concerne le milieu et l'âge du récit. Au regard de ces affinités des trois récits, on peut supposer avec Caco et De Robert que, citation, ces récits émanent d'un même milieu. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous composés par le même auteur, car chacun de ces récits a ses propres traits caractéristiques. Tandis qu'en 1 Samuel 3, l'expression « davar », se référant à Yahvé, et « devar » Yahvé, parole de Yahvé, a la fonction d'un mot-clé, au total 9, occurrence, elle n'apparaît qu'une fois en 1 Samuel 1:2, et c'est une. Alors le mot n'est pas attesté dans 4Q Samuel A et dans la 70, alors c'est douteux, et également une fois en 1 Samuel 4. La désignation Yahvé Tsebaot, qui apparaît en 1 Samuel 1:2, deux ou trois fois, n'apparaît jamais en 1 Samuel 3. En 1 Samuel 4, il y a une seule occurrence. En ce qui concerne les relations entre les trois récits, on discerne donc d'un côté l'existence des affinités importantes et d'un autre côté des différences. Un fait pareil peut être constaté par rapport aux relations de ces récits avec les chapitres suivants, 5 et 6, et aussi 9. On y discerne un vif intérêt pour les thèmes concernant le sanctuaire et le culte. Les auteurs ont des connaissances détaillées sur son déroulement, voire surtout les récits de 1 Samuel 1:3 et aussi 9, qui a décrit le déroulement des procédures sur une bama. Quant à la question de la datation, il faudrait d'abord regarder de près le verset 3:11 du point de vue de la langue. Étant donné que la tournure « à faire tinter les oreilles de quiconque en entendra parler » apparaît aussi dans deux textes deutéronomistes tardifs, on pourrait être tenté de supposer l'origine du récit dans une époque tardive, post-exilique. Mais, à mon avis, une telle conclusion serait précipitée. Car il se peut qu'il s'agisse d'une tournure fixe qui a été connue et utilisée non seulement par les deutéronomistes, mais aussi par d'autres milieux d'auteurs. Il est intéressant de voir que la formulation de 1 Samuel 3:1 a des éléments, 11, excusez-moi, des éléments distincts par rapport aux deux versets deutéronomistes. D'abord, dans l'introduction, on a le pronom personnel Anochi pour la première personne. Dans les deux versets deutéronomistes, on a le suffixe ni ajouté à l'expression hiné, hinéni. La forme verbale utilisée dans 3.11 a une voyelle de séparation, de tsilena, qui se voit dans l'écriture, le yod, tandis que les deux versets deutéronomistes en tzalna sont ce yod. Et enfin, tandis que dans les versets deutéronomistes, l'événement pronostiqué est qualifié en tant que négatif, ra'a, malheur, 1 Samuel 3, 11, a davar, chose, qui est un terme neutre. Concernant la datation de 1 Samuel 3, ainsi que des récits apparentés 1 à 2 et 4, il y a quelques indices qui donnent à penser à une époque relativement ancienne. Plusieurs motifs et certaines stipulations de culte font tension avec des lois normatives tardives de la Bible hébraïque. D'abord, le fait que Samuel dort dans le sanctuaire tout près de l'arche. Dans les époques tardives, la législation concernant l'accès aux zones les plus saintes du temple était très restrictive. En effet, ce n'était que le grand prêtre qui avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints à un jour particulier, le Yom Kippour. La provenance ethnique de Samuel, il est éphratéen, donc non lévite. La procédure particulière concernant l'assignation d'une partie de l'animal sacrifié pour le prêtre, c'est décrit dans le chapitre 2. Le servant piqué dans la marmite et tout ce que la fourchette amenait était destiné au prêtre. Alors c'est un choix par le hasard, mais en même temps par Dieu, on pourrait dire. Dans la législation du Deutéronome et du livre du Lévitique, les parties de l'animal réservées à l'intention du prêtre sont clairement définies. Ce sont l'épaule, les joues, l'estomac, selon le Deutéronome, la poitrine et le gigon, selon le Lévitique. En général, il faut constater que la description de plusieurs activités cultuelles à Silo fait tension avec l'attitude hostile des deutéronomistes envers la vénération de Yahvé à différents lieux. Ma conclusion, donc, est que ces trois récits proviennent d'une tradition ancienne pré-exilique. Merci de votre attention.